Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bienvenue dans la seconde partie de l'émission. Nous parlons aujourd'hui de la Centrafrique. Plus de 25 000 personnes vivent sans assistance à Kagabandoro dans le Nord. La plupart des ONG ont arrêté de travailler à cause des attaques à répétition contre les humanitaires. Et la situation ne concerne d'ailleurs pas seulement Kagabandoro. Le travail des ONG est de plus en plus difficile, en fait, à un moment critique pour le pays, puisque de plus en plus de Centrafricains ont besoin d'une aide d'urgence. Alors, comment expliquer ces attaques contre les humanitaires et surtout, comment les faire cesser? Pour lancer la conversation, nous accueillons Najat Rojdi. Vous êtes à Bangui, vous travaillez justement pour une organisation humanitaire. Vous êtes coordinatrice d'OCHA. Bonjour.
Bonjour, je suis donc le coordonnateur humanitaire au nom des ONG et des agences des Nations Unies.
Alors, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les ONG en ce moment en Centrafrique ?
Merci beaucoup. En fait, ce sont des menaces qui pèsent sur tous les acteurs humanitaires, hein, qu'ils soient ONG internationales, ONG nationales ou agences des Nations Unies, qui œuvrent justement dans un théâtre, finalement, où il y a énormément de violence depuis les derniers mois. Il y a eu plusieurs attaques au point où, de janvier à juin, en fait, de cette année, la Centrafrique toute seule totalisait un tiers des incidents de sécurité à l'encontre des ONG dans le monde. C'est vous dire à quel point c'est vraiment très inquiétant et très très grave, avec en fait plus de 196 incidents qui ont directement ciblé les humanitaires contre 137 en l'année 2016. Aujourd'hui, les convois humanitaires sont sujets à des attaques. Les humanitaires sont menacés directement. Les bureaux des humanitaires, qu'ils soient des ONG ou des agences des Nations Unies, sont saccagés. Leurs équipements sont volés. La nourriture et les vivres qui sont destinés à la population vulnérable est également volée. Les camions qui transportent l'assistance humanitaire sont également interceptés par les groupes armés. Et c'est vous dire que c'est réellement un vrai problème et pour les humanitaires, mais encore plus pour la population qui est en fait doublement vulnérable. Non seulement ils sont victimes de toutes ces violences et qui a donné à leur déplacement, au point où ils ont tout laissé derrière eux, leur maison, leurs projets, leurs rêves, leur vie, dans beaucoup de cas, mais en plus, on les prive de cette assistance humanitaire qui très souvent sauve des vies. Parce que quand on vole des médicaments, quand on empêche les humanitaires d'apporter l'assistance médicale, c'est aussi beaucoup de personnes qui meurent malheureusement.
Et est-ce qu'il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres? On parlait de Kagabandoro parce que la situation est emblématique et que début juillet, beaucoup d'ONG ont arrêté de travailler à cause de ces attaques. Mais en fait, ça concerne beaucoup de régions de Centrafrique.
Oui, je voudrais préciser que les humanitaires ont suspendu temporairement pour des raisons de sécurité évidentes parce que leur protection est tout aussi importante. Et malheureusement, on n'a pas que Kagabandoro, on a énormément de points chauds en fait au sud-est, à Zemio, à Bangasso, qui aujourd'hui ont encore une fois amené les humanitaires à suspendre temporairement leur assistance parce qu'ils, encore une fois, ils ont été l'objet et les cibles directes de menaces d'un certain nombre de groupes armés. Donc ce que nous avons dû mettre en place, parce que nous, en tant qu'humanitaires, il va de notre devoir de bien évidemment tout mettre en place pour pouvoir sauver des vies, parce que je le dis et le redis, il s'agit bien de sauver des vies. Ces personnes, si on ne leur apporte pas l'assistance humanitaire, elles vont mourir.
Najat Rojdi, restez en ligne, on va accueillir un auditeur. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Comment on peut faire cesser ces attaques contre les humanitaires qui, qui augmentent, qui sont de plus en plus fréquentes depuis quelque temps en Centrafrique?
Bon, mais pour moi, on ne peut pas dissocier la sécurité des populations à celle des humanitaires. La vie des humanitaires n'est pas plus importante que celle de la population qui se fait massacrer tous les jours. Pour moi, le véritable problème, c'est un problème de gouvernance. Il y a eu des élections tout récemment, mais apparemment, les autorités qui sont en place sont totalement incompétentes et ne savent pas faire, tout simplement. Et pour moi, ce n'est ni la MINUSCA. On peut essayer de mettre des soldats derrière chaque humanitaire pour aller travailler, mais ce ne sera pas la solution. La solution, c'est que le gouvernement centrafricain prenne ses responsabilités, fasse tout pour que les forces armées centrafricaines soient à pied d'œuvre sur le terrain, parce que c'est leur pays, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays aux humanitaires et autres pour résoudre le problème.
Alors, donc, vous disiez, Hervé, qu'on ne peut pas mettre un soldat après derrière chaque humanitaire. Najat Rojdi, donc, et vous travaillez, vous, à Bangui pour Rocha. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des convois, des ONG qui circulent sans protection?
Alors, je voudrais juste dire à l'auditeur qui vient d'intervenir qu'on est tout à fait d'accord qu'on ne dissocie pas la sécurité des humanitaires des civils, et tout le travail de sécurisation qui est fait, il va d'abord en termes de protection des civils à la protection des populations vulnérables. C'est bien évident, il n'y a pas une vie qui est plus importante qu'une autre. Hein. Cela va de soi. Et la présence de la MINUSCA, des humanitaires, de tout le système des Nations Unies viennent en accompagnement justement du gouvernement et des Centrafricains. Et la solution, elle ne peut être que centrafricaine, bien évidemment, et ne viendra pas d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre de zones, de préfectures, de régions où il y a un déploiement de la MINUSCA, de la sécurité, et il y a une présence des humanitaires qui sont là pour appuyer les populations vulnérables. Mais bien évidemment, je rappelle à tout le monde que la République centrafricaine a la taille à la fois de la France et la Belgique réunies, et que la force de la MINUSCA toute seule ne peut bien évidemment pas couvrir tout le territoire. Je voudrais cependant également rappeler que pendant longtemps, par exemple, à l'ouest, on avait réellement un retour à la stabilisation, un retour au calme et un retour à la paix, au point où justement beaucoup de réfugiés qui étaient au Cameroun ont commencé à revenir spontanément vers leur pays.
Et on voit qu'aujourd'hui la situation se détériore de nouveau. Franck sur Facebook nous dit qu'il faut d'abord imposer la paix, et selon lui, cela signifie désarmer de force les différents groupes rebelles. Bonjour Cyril.
Ah oui, bonjour.
Vous êtes d'accord? La clé, selon vous, c'est le désarmement?
Effectivement, je suis d'accord avec cette personne qui a parlé du désarmement, parce que pour le moment, les groupes armés sont libres de se déplacer comme ils veulent et de commettre des crimes comme ils veulent. Donc on ne peut pas quand même permettre aux humanitaires de faire normalement le travail dans un contexte, où les groupes armés font leurs lois. Donc il est important que la MINUSCA puisse utiliser de la force pour mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui empêchent l'aide humanitaire de parvenir à destination. Parce que si on continue tout le temps à caresser les groupes armés dans le sens du poil, il est évident qu'ils ne vont pas arrêter de s'en prendre aux pauvres et de s'en prendre aux humanitaires. Donc je trouve très important qu'on puisse désarmer.
Et comment faire alors pour que ce désarmement puisse enfin avoir lieu?
Pardon?
Comment faire concrètement pour que ce désarmement puisse enfin avoir lieu?
Mais il faut d'abord commencer par arrêter les leaders et envoyer un message clair. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on passe tout le temps à négocier avec des personnes qui ne veulent pas la paix. Au fait, c'est pas le problème, parce qu'ils ont occupé des régions minières où ils exploitent les ressources naturelles du pays, et donc c'est pas dans leur intérêt d'arrêter la guerre en ce moment. Ils ne coûtent pas le dialogue, ils ne coûtent pas les appels au dialogue. Donc ils veulent tout simplement maintenir la situation et de continuer à piller le pays. Donc il faut absolument qu'on reprenne entre leurs mains ces armes-là qu'ils ont.
Merci Cyril. On accueille un autre auditeur qui nous appelle de Bangui. Bonjour Sébastien.
Bonjour Anne.
Qu'en pensez-vous, vous, du désarmement? Est-ce que vous considérez que c'est ça la priorité? Et si oui, comment y parvenir?
Oui, mais comme l'ont dit tout à l'heure mes prédécesseurs, hein, la seule solution en Centrafrique, c'est le désarmement forcé. Alors, comment s'y prendre? Vous voyez, ces groupes armés occupent presque tout le territoire, du nord à l'est, et bientôt, ils vont commencer par le sud. Alors, il faut d'abord commencer par redéployer les forces de défense nationale sur toute l'étendue du territoire et surtout au niveau des frontières avec le Tchad et le Soudan. Les forces de MINUSCA sont là. C'est grâce et parce qu'à cause de leur mollesse que ces groupes armés s'attaquent aux humanitaires. Ils les attaquent pourquoi? Ils attaquent parce que, un, ils veulent faire la pression sur le gouvernement, et deuxièmement, c'est pour s'alimenter, justement.
Alors, vous parlez de la mollesse de la MINUSCA, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, pardon, était en visite il y a quelque temps en Centrafrique. Il a annoncé qu'il comptait renforcer la MINUSCA, justement, qui compte aujourd'hui environ 12 500 casques bleus. Ce serait une bonne solution, ça? De déployer plus d'hommes?
Renforcer, déployer plus d'hommes est une chose. Mais le mandat robuste qui a été donné aux forces des Nations Unies en Centrafrique n'a jamais été exécuté. Il faut passer par la force pour désarmer.
Ah, Sébastien, la ligne s'est détériorée. On essaiera de vous reparler un petit peu plus tard. En attendant, on va accueillir Prince qui nous appelle également de Bangui. Bonjour.
Oui, bonjour Anne.
Alors, qu'en pensez-vous de cette situation? Comment on peut faire pour éviter la répétition des attaques contre les humanitaires en Centrafrique?
Ben oui, mais vous vous rendez compte que pratiquement mes prédécesseurs et moi, on s'aligne pratiquement sur la même ligne. Le grand problème, comme mes prédécesseurs l'ont dit, et peut-être je crains de redire la même chose, il faut simplement qu'on applique les résolutions des Nations Unies que détiennent les forces de la MINUSCA ici chez nous. Il n'y a pas que les humanitaires. Aujourd'hui, c'est parce que la sécurité des humanitaires est peut-être entachée que nous sommes en train de parler de cette émission. Je pourrais dire que c'est seulement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En principe, si les forces des Nations Unies avaient appliqué le mandat qui leur avait été donné, moi je pense qu'aujourd'hui, tout serait déjà rentré dans l'ordre.
Alors là, aujourd'hui, la situation est quand même assez compliquée parce que les casques bleus aussi sont attaqués. Il y a quand même eu 13 morts depuis le début de l'année, c'est beaucoup.
Ben oui, justement. Moi, je pense qu'il a fallu que les forces de Nations Unies soient attaquées pour que nous écoutions le responsable numéro 1 ou numéro 2 dire qu'il va maintenant redéployer, renforcer. Mais il était temps. Il a pratiquement 2 ans, 3 ans que nous sommes là dans ce pétrin, là, permettez-moi l'expression. Il faut utiliser la force, il faut désarmer. Et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de désarmement, il y aura toujours des recrudescences de violence par-ci, par-là. Que ce soit ici à Bangui, en province et un peu partout dans le pays. C'est ça.
Et donc alors, par qui ça passe? Est-ce que c'est la MINUSCA? Est-ce que c'est au gouvernement de faire aussi plus d'efforts pour la sécurité?
Mais c'est d'abord la MINUSCA. Parce que moi je pense que la sécurité du pays est maintenant entre les mains de la MINUSCA. Le pays ne détient plus d'armée, le pays est sous embargo, on ne peut plus acheter des armes, on ne peut plus réarmer les forces. L'Union européenne est en train de mettre en place un seul bataillon pour un pays que quelqu'un a dit tout à l'heure qui vaut et la France et la Belgique pour assurer la sécurité. C'est pas possible. Alors à partir du moment qu'il n'y a plus de force nationale et que cette force est suppléée par les forces des Nations Unies, à mon avis, il faut que cette force des Nations Unies puisse assumer le rôle de protection de la population et des humanitaires, bien sûr. Ça, c'était un mandat qui était écrit noir sur blanc, qui revenait, en tout cas, aux forces des Nations Unies d'assurer la sécurité de la population, et y compris celle des humanitaires.
Mais d'autant plus que les armes circulent de plus en plus facilement pour les groupes armés. Les Nations Unies, dans un dernier rapport, ont révélé que tous les groupes, hein, Anti-Balaka et Séléka, profitaient d'armes qui traversaient très facilement le fleuve Oubangui, donc la frontière entre la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Des armes arrivent aussi du Congo-Brazzaville. Sébastien, vous êtes toujours avec nous?
Je suis toujours avec vous, madame.
Comment on peut envisager d'apaiser la situation si des armes continuent d'arriver et qu'en fait, les groupes rebelles deviennent de plus en plus forts?
Justement, je disais qu'il ne suffisait pas seulement de renforcer la MINUSCA. Il faut leur donner les moyens. Ils en ont déjà les moyens.
Il suffit de commencer par arrêter ces importations illicites d'armes par le Congo et par le Tchad, puis par le Soudan, et puis désarmer ceux qui sont sur le terrain. Mais pourquoi les Nations Unies, pourquoi le secrétaire des Nations Unies laisse les troupes des Onusiens se faire massacrer en Centrafrique? Je me demande, je me pose la question. Et des troupes des Nations Unies qui se laissent massacrer par des petits voyous hein, dans un pays au centre de l'Afrique, et les Nations Unies ne disent rien, madame.
Alors qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui fait que, selon vous, la MINUSCA n'est pas plus offensive? C'est une question de mandat, c'est une question de volonté, c'est une question de nombre de troupes? À quoi ça tient?
Mais c'est pas question de nombre. Ils ont déjà le mandat, ils ont les moyens. Avec tous les moyens, les armes et les avions qu'ils ont, ils peuvent bien passer en action. Mais c'est une question de commandement. En plus, le commandement ne leur donne pas les ordres de le faire. Avec les Sangaris, on n'a pas vécu ça. En 2015, les Sangaris ont commencé à désarmer ces hommes armés et tout allait bien.
Sangaris, c'était l'opération menée par la France.
Oui. Donc, je regrette le départ des troupes françaises. Et il faut que les Nations Unies appliquent ce mandat qui leur a été donné, désarmés par la force.
Merci Sébastien de nous avoir appelés. On accueille maintenant Benjamin, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Que révèle cette situation selon vous, ces attaques à répétition contre les humanitaires?
Mais cette situation est due au fait qu'on a un gouvernement qui ne prend pas l'initiative. Il a appliqué un mandat robuste, n'est-ce pas? Et même quand vous voyez maintenant sur le terrain, même la MINUSCA se fait attaquer par les groupes rebelles. Et les chefs de tous ces groupes de rébellion se baladent tranquillement ici à Bangui. Si on commence à leur mettre la main dessus, je pense que bien évidemment sur le terrain auront peur et vont se calmer un peu. Mais donc la situation est due simplement à une faiblesse des autorités en place et une faiblesse de la MINUSCA qui n'applique pas son mandat. Et ben voilà, c'est la conséquence, c'est que la population civile n'est pas protégée. Et de facto, ça entraîne la non-protection des humanitaires sur le terrain.
Oui, parce qu'en attendant, les groupes armés sont de plus en plus forts. Hein. Aujourd'hui, on considère que 14 des 16 provinces du pays sont sous la coupe des groupes armés. Comment on peut faire dans ce cas-là?
Madame, si on commence par arrêter par les chefs, parce que bah, arrêter les chefs de ces différents groupes de rébellion qui se baladent ici à Bangui. On les connaît tous, ils sont là à Bangui, au centre-ville, tous les jours, ils sont dans les débits de boissons et consorts, tout le monde les connaît. Donc si on commence par leur mettre la main dessus, je pense que eux, si on leur met la main dessus, leurs éléments sur le terrain n'auront plus la force nécessaire pour pouvoir passer des bandits ici qui passent les commandes de ces munitions et de ces armes. Donc il faut qu'on commence déjà par les arrêter. Donc il faut faire saisir la justice. Mais quand on ne le fait pas, c'est la conséquence, c'est que ces groupes deviennent de plus en plus forts. Et comme on a un gouvernement en face qui ne tient pas un langage de fermeté, cela leur laisse l'opportunité maintenant de s'attaquer même à la MINUSCA, parce que en principe, ces groupes rebelles doivent avoir peur de la MINUSCA.
Il y aurait une sorte d'impunité, selon vous?
Mais naturellement, c'est cette impunité qui est le ciment et qui est même l'essence de tout ce qu'on attend de vivre dans le pays. Parce que l'impunité pousse les différents groupes rebelles et leurs leaders qui sont ici à Bangui. Et même, comme on le sait, il y a une implication des hommes politiques centrafricains dans ces histoires. Donc quand ces gens sont ici à Bangui, ils ne sont pas inquiétés. Et c'est de Bangui ici qui passe les commandes de ces armes.
Alors, le pays s'est quand même doté d'une cour pénale spéciale qui doit commencer ses enquêtes en octobre prochain. Vous en pensez quoi, Benjamin?
Mais oui, je pense que c'est un début de solution au problème. Il faut déjà commencer par arrêter ceux qui se baladent ici à Bangui. Parce qu'il est de l'autorité publique que ces groupes rebelles sont alimentés par des gens qui sont ici à Bangui, qui prennent l'avion à l'aéroport de Bangui, qui vont à Brazzaville, qui vont à Pointe, qui vont passer la commande de ces munitions pour que leurs éléments utilisent sur le terrain. Donc si on commence par arrêter les leaders, à partir de ce moment, on va désorganiser la chaîne de ravitaillement et ça peut déjà permettre à la MINUSCA de passer à l'offensive. Et si la MINUSCA est là, je vous le dis très honnêtement, tous les Centrafricains se disent maintenant que la MINUSCA est là pour faire le business. Parce que vous voyez, la MINUSCA met la barrière. Et même à l'intérieur du pays, ils raquettent les gens sur les barrières comme les forces de l'ordre centrafricaines. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment, la MINUSCA est là pour un autre objectif, faire le business, se remettre plein les poches. Et dans les zones de diamants, on sait que la MINUSCA est de connivence totale avec les groupes rebelles pour l'achat et l'extraction des diamants.
Bon, ça c'est votre avis, Benjamin. Je ne suis pas sûre qu'il soit partagé par tout le monde. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.